Bonsoir. Célébration ce vendredi 8 mars de la Journée internationale de la femme en RDC. Le thème retenu pour cette journée est « Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux filles en consolidant la paix et la justice en RDC ». Quel rôle la femme congolaise peut-elle jouer dans la recherche et la consolidation de la paix en RDC ? Nous recevons comme invité Madame Solange Nyenyezi, membre cofondateur du parti politique AFDC, un parti de la majorité présidentielle et point focal du cadre de concertation de la femme congolaise CAFCO. Madame Nyenyezi, bonsoir.
Bonsoir Alain Hiron.
Madame Edo Nziavake, membre de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Madame Nziavake, bonsoir.
Bonsoir.
Joseph Kongolo, analyste politique. Monsieur Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Joseph Darimaté, Serge, qui nous écrit depuis Lubumbashi au Katanga. Selon la femme, qu'est-ce qui lui manque dans notre constitution pour qu'elle se sente concernée ou impliquée dans le processus de développement de la société congolaise? Leurs propositions concrètes feront bel écho, car à mon sens, notre constitution la met au même pied d'égalité que l'homme dans les droits et devoirs. Freddy Manala Kapampa de Kindu. La femme congolaise doit encore faire face à de nombreux défis basés notamment sur sa propre conscience, considération et détermination pour pouvoir résoudre les problèmes qui sont siens, car elle continuera toujours à être l'auteur de son propre malheur. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Violence à l'égard des femmes, de l'indignation à l'action, tel est l'intitulé du message du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Pour Ban Ki-moon, les Nations Unies s'engagent de nouveau à lutter contre ce fléau mondial où qu'il frappe. Ce dernier a réaffirmé que le bien-être des victimes de violences sexuelles en période de conflit doit être au premier rang des activités des Nations Unies. Les grandes lignes de ce message avec vous, Kevin Kouté.
Dans son discours pour la Journée internationale de la femme, le secrétaire général des Nations Unies estime que cette journée doit être l'occasion de se remémorer les atrocités et les crimes commis contre les femmes et les filles au cours de l'année écoulée et de chercher ensemble les moyens de construire un avenir meilleur. Pour Ban Ki-moon, les décisions que les Nations Unies prendront cette année doivent être à la mesure de l'indignation. Le secrétaire général de l'ONU a souligné qu'en cette Journée internationale de la femme, les Nations Unies s'engagent à ne laisser aucun crime contre des femmes impunies et a systématiquement refusé que des femmes soient punies pour des violences qu'elles ont elles-mêmes subies. Pour le secrétaire général des Nations Unies, cette promesse de lutte contre ce fléau mondial où qu'il frappe vaut tout particulièrement pour les femmes qui vivent dans des zones de conflit où les violences sexuelles sont trop souvent utilisées comme armes de guerre pour humilier l'ennemi en lui arrachant sa dignité. Il a aussi annoncé à l'occasion de cette journée qu'il a chargé ses plus hauts conseillers de faire de l'action contre les violences sexuelles une priorité dans toutes les activités de rétablissement, de maintien et de consolidation de la paix.
Merci Kevin Kouté et Madame Solange Nyenyezi. Vous êtes membre cofondateur du parti politique AFDC, un parti de la majorité présidentielle, également point focal du cadre de concertation de la femme congolaise CAFCO. Madame, comment envisagez-vous la célébration de la Journée internationale de la femme demain 8 mars?
Merci Alain Hirung. La célébration de la Journée internationale de la femme, maintenant c'est la 36e année pour nous en RDC et c'est pratiquement depuis une décennie que nous en RDC, les femmes se sont levées et sont assez mobilisées autour de cette journée-là. Et je crois que nous ne devons pas nous arrêter à être mobilisés, à être sensibilisés à la journée. Voilà, maintenant nous passons aux actions concrètes, c'est-à-dire nous voulons la célébrer par des activités mobilisatrices, par des conférences, par des évaluations, et en essayant aussi d'interroger un peu les années précédentes, les thèmes qui sont passés. Prenons l'autonomisation de la femme l'année dernière, l'égalité de chance l'année passée, l'année écoulée, et et encore une année, c'était Je dénonce les violences. Nous allons nous interroger sur toutes les avancées de toutes ces actions liées autour de ce thème et nous focaliser sur des actions concrètes, finies des promesses, mais des actions concrètes, vérifiables, pour ramener la paix, surtout. C'est très bien tombé parce que dans notre pays, nous manquons la paix. Et particulièrement à l'Est. Donc ce thème est bien tombé. Nous allons encore nous mobiliser fortement sur des actions pour bouter l'ennemi hors du pays.
Alors la ministre du genre, famille et enfants, Geneviève Inagossi, a annoncé que contrairement aux pratiques observées depuis quelques années, il n'y aura pas de défilé ni d'impression d'un pain spécifique pour cette journée. Ça a quand même soulevé un tollé dans la population.
Effectivement, peut-être la société n'était pas préparée ou toutes les femmes n'étaient pas préparées parce que ça fait plus de 5 ans que les femmes célèbrent avec faste en portant le pagne. Les femmes, non seulement les grandes femmes, mais même les petites femmes, les élèves, toutes sont mobilisées autour du pagne. C'est vrai que c'est un signe distinctif, c'est un signe de communication, mais on a voulu cette fois-là tourner le regard vers l'évaluation, vers les actions concrètes. Nous voulons, dans nos bases et dans nos institutions, essayer de nous interroger et aboutir à la fin du mois sur un cahier des charges que nous allons présenter à l'autorité. Et comme ça, là, nous saurons suivre les avancées point par point.
Vous avez tout à l'heure dit que c'est la 36e journée que l'on célèbre ici en RDC et que vous mettrez l'accent sur l'évaluation des différents thèmes pour aboutir à un cahier des charges. Finalement, ne serait-ce pas une célébration de trop?
Non, pas du tout. C'est une journée internationale. Et nous, en l'occurrence, la RDC, pourquoi ne pas la célébrer avec FAST et avec plusieurs activités étalées sur tout un mois? Je disais que depuis que cette journée a été instituée comme une journée internationale, c'est donc la 36e fois. Mais nous, en RDC, ça fait une décennie d'années que nous la célébrons avec faste. Je suis sûre que même un enfant de la maternelle, aujourd'hui, quand tu lui parles, 8 mars, il sait que c'est la journée, c'est la fête de la femme. Ça s'arrête là, mais nous devons aller au-delà de ça. C'est quoi? C'est quoi l'historique? C'est depuis quand? Comment? Pourquoi ces femmes-là qui ont marché, qui étaient contre les conditions de travail, et pourquoi on a institué cette journée, c'est à cause de ces femmes aux États-Unis, à Copenhague, à cause des autres qui ont protesté contre les mauvaises conditions. Donc nous devons nous rendre compte, et en l'occurrence ces femmes-là, et nous maintenant, quelles sont les avancées aujourd'hui? Quelles sont les avancées dans notre pays? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous femmes des institutions, nous femmes travailleurs, nous femmes en nous solidarisant avec la femme paysanne, en nous solidarisant avec celle qui subit la guerre, celle qui est obligée de se déplacer de là où elle habite? Vraiment, je crois que nous allons essayer de mener une collecte pour prouver notre solidarité parmi les actions à mener, déjà, je viens de citer, d'aussi impliquer, de mobiliser toutes les femmes comme les années passées. Vous avez vu, vous avez suivi la marche mondiale à Bukavu.
Mais Madame Solange, quand vous parlez de l'organisation des conférences et tout ça, on a toujours l'impression qu'il y a un fossé entre la femme travailleuse, la femme intellectuelle et la femme paysanne qui est laissée pour compte.
Justement, c'est vrai, il y a une fossé. Bon, il nous appartient, il appartient à toutes les femmes et surtout aux institutions, aux ONG, de mobiliser et d'informer cette femme paysanne, de l'aider à connaître ses droits. Tu vas voir une femme qui produit et le fruit de sa production va chez son mari, donc elle ignore ses droits. Il nous appartient à nous de vulgariser le droit, le devoir, parce que la femme sans avoir, sans savoir et sans pouvoir, vraiment nous sommes très loin d'aboutir à la réalité.
Merci. Madame Edo Nziavake, vous êtes membre de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Sous quel sens ou sous quel signe placez-vous la célébration de la Journée internationale de la femme du 8 mars, au Nord Kivu particulièrement? Merci.
Ok, je voulais rectifier, je suis Madame Edon Ziavake, je suis le point focal de la marche mondiale des femmes, mais je ne suis pas membre de la coordination, mais je suis de la société civile. Et au niveau de la province du Nord Kivu, et comme l'histoire le démontre, c'est une province qui a beaucoup souffert par rapport à une répétition des guerres. Et nous sommes vraiment encouragés par les messages du secrétaire général des Nations Unies, qui donne sa promesse et nous allons nous attacher à cette promesse. Parce que nous, chaque fois quand il y a le 8 mars, il y a, quand on parle par exemple des nouveaux pagnes, au Nord Kivu ce n'est pas le cas parce que ces femmes qui sont dans les camps des déplacés, ces femmes qui sont en déplacement, ces femmes qui sont violées, ne savent même pas que c'est le 8 mars, c'est une journée de fête. C'est pour cela que nous, on ne travaille pas seulement le 8 mars. Durant l'année, on travaille sur la question de la paix par des actions de plaidoyer. Mais spécifiquement pour le mois de mars, depuis janvier, nous avons mis en place des équipes femmes qui sensibilisent différentes couches de femmes pour essayer d'expliquer l'historique du 8 mars, pour essayer d'éviter les dérapages de femmes pendant la célébration du 8 mars. Et durant le mois, nous aurons ces sensibilisations au niveau des radios, au niveau des réunions. Et après cela, nous allons, le 8 mars, on fera une journée de prière ethnique avec différentes églises et confessions religieuses. Et nous avons prévu les visites des camps des déplacés. Et ensuite, durant le mois, il y aura aussi une journée où les femmes vont s'exprimer avec les autorités pour essayer d'expliquer les contextes dans lesquels la femme du Nord Kivu vit ces derniers temps, parce qu'il y a la guerre dans presque toutes les provinces, les territoires, dans tous les territoires de la province du Nord Kivu.
Madame, il y a Robert qui nous écrit de Bukavu, sur Kivu, qui dit « Beaucoup d'opportunités s'offrent à la femme congolaise, mais tant que le contexte social, politique, économique et même culturel ne lui est pas encore favorable, je ne la vois pas en bonne position de pouvoir jouer réellement son rôle dans la recherche et la consolidation de la paix en RDC. » Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je pense qu'il n'y a pas de développement sans paix. Et les femmes du Nord Kivu ont déjà compris qu'elles doivent se donner corps et âme avec les moyens de bord qu'elles ont pour essayer de se débattre. Elles posent la pierre qu'elles doivent poser pour la recherche de la paix. Nous faisons des actions de plaidoyer à différents niveaux, au niveau local, au niveau même de la province, au niveau national, au niveau régional, et nous visons même les niveaux internationaux. C'est ce que la femme peut faire, parce que s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. L'année passée, nous avons pensé qu'il fallait se rapprocher de la femme rurale. C'est grâce à cette femme rurale que nous mangeons et que nous essayons de supporter la vie par rapport à la santé, par rapport à l'agriculture. Mais nous voyons que c'est cette femme rurale qui essaie d'aider la population, pas seulement la femme. C'est cette femme qui est toujours en déplacement. C'est cette femme qui subit les conséquences de la guerre. Comment cette femme peut nous aider à nous développer ensemble, mais au moment où elle est dans les camps de déplacés, au moment où elle est violée et violentée, c'est difficile. Donc, les autorités aussi doivent comprendre qu'il est grand temps qu'ils puissent se donner la peine de tout faire, les plaidoyers, les lobbying pour qu'il y ait la paix, surtout dans la province du Nord Kivu, où ce sont les femmes qui supportent les conséquences de cette guerre, pour qu'il y ait développement. Parce que la province du Nord Kivu ne peut pas se développer tant qu'il y aura une répétition de guerre dans la province du Nord Kivu.
Et donc, Madame Edo Nziavake, quels sont du point de vue de la province du Nord Kivu, les contingences ou les influences socioculturelles qui pèsent sur la femme? Pouvez-vous nous donner quelques exemples?
Et par rapport aux socioculturels, nous avons par exemple les coutumes, les pratiques qui pèsent sur le développement de la femme. Mais nous pensons que s'il y a la paix, on peut travailler sur les coutumes parce que nous travaillons sur les coutumes, mais quand il y a la paix, la femme ne peut pas participer par exemple à la prise de décision quand il n'y a pas de paix. Mais quand il y a la paix, on peut travailler sur les textes, on peut rectifier les textes, on peut demander même la mise en application. Parce que nous sommes un peu en retard par rapport à d'autres provinces. Les autres provinces peuvent se développer, mais nous, nous ne pensons que toujours à la recherche de la paix. Qu'est-ce que la femme doit faire pour aller vers les autorités au niveau national et au niveau international pour qu'il y ait la paix. Donc nous travaillons sur la question de la paix au moment où les autres pensent déjà au développement. Donc la province du Nord Kivu risque toujours d'être en retard par rapport au développement parce que nous avons le manque de paix dans la province.
Alors très brièvement, madame, ça fait quand même beaucoup d'années, chaque fois qu'on parle de la célébration de la Journée internationale de la femme en RDC, on revient sur les violences faites aux femmes. De votre point de vue, d'une certaine évaluation, avez-vous l'impression que ces violences ont baissé?
Les violences en général ont été comprises par certaines personnes. Il y a même des hommes qui ont compris qu'il ne faut pas continuer à violenter les femmes. Dans le cadre, d'une manière générale, les violences commencent à être comprises et les gens commencent à prendre conscience. Mais d'autre part, quand il y a la guerre, il y a les violences sexuelles qui s'accentuent. Donc ce n'est pas facile de parler de violences, de la diminution des violences sexuelles pendant la période de guerre. Parce que quand il y a des atrocités, il y a souvent plusieurs cas de violences sexuelles dans les villages, dans les endroits où il y a la guerre.
Merci.
Donc, il y a plusieurs formes de violences faites à la femme, mais les autres violences, quand il y a la paix, on peut travailler sur les autres, on peut continuer à travailler sur les autres violences et essayer d'éradiquer les violences faites à la femme. Mais
merci.
Quand il y a la guerre, c'est vraiment difficile parce que tout le monde est tourné vers la recherche de la paix et ce n'est pas facile de travailler sur les autres thèmes, sur les violences faites à la femme.
Merci Madame Edo Nziavake. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique, vous avez suivi Madame Solange Nyenyezi et Edo Nziavake. Quelle est votre analyse par rapport à la perception que l'on devrait avoir de la journée du 8 mars?
Bien, merci beaucoup pour la question. Je voudrais, avant toute chose, exprimer toute ma douleur à l'égard de toutes ces femmes qui nous suivent peut-être dans des tentes, qui nous suivent dans des conditions infrahumaines, qui sont en brousse, peut-être qui ne savent pas comment vivre, comment passer cette nuit. Je voudrais ici exprimer toute cette douleur-là. Et d'entrée de jeu, je voudrais dire que la femme en République démocratique du Congo est dans une situation particulière qui l'oblige de célébrer d'une manière particulière aussi cette date du 8 mars qui, en fait, fait un cas d'école pour toutes les femmes qui sont en situation de guerre. Donc, je voudrais dire tout simplement ici que les femmes congolaises doivent célébrer, doivent agir d'une manière particulière compte tenu de la situation particulière dans laquelle elles se trouvent. Ça, c'est la première chose. Mais alors, que faire pour impacter les décisions? Parce qu'en fait, le défi qu'il y a aujourd'hui, c'est d'alléger les souffrances de la femme. C'est de faire en sorte que la femme ne puisse pas servir de chair à canon, ne puisse pas servir de chair à canon, si vous voulez, dans toutes ces guerres. Et là, je voudrais dire ici que la femme congolaise est interpellée doublement. Doublement, d'abord, en tant qu'être faible. Et deuxièmement, c'est la violence faite à la femme dénote de la nature même de la guerre de l'Est. Voyez-vous, c'est une guerre qui a orienté, qui a des objectifs précis, et lesquels objectifs imposent à ce que la femme qui procrée la vie, la femme qui assure la pérennité, n'est-ce pas, de l'espèce, qu'on l'étouffe, de manière à ce que cette politique, n'est-ce pas, de chasser les autochtones pour les remplacer par les nouveaux occupants, voyez-vous ? Alors, la femme, comme elle est, elle, productrice, elle subit durement ce coup, parce qu'en fait, on veut l'empêcher de continuer à procréer. Parce que la violence avec laquelle la femme est traitée dans la guerre de l'Est, c'est une violence sauvage. C'est une violence très sauvage. On voit comment ça se passe sur les chaînes de télévision, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ça dénote la nature même de la guerre, des objectifs lointains de cette guerre de l'Est qui veut forcément remplacer les autochtones, étouffer la procréation, n'est-ce pas, pour les remplacer par des nouveaux occupants. Évidemment, c'est tout l'enjeu, n'est-ce pas, qu'il y a au-delà, n'est-ce pas, d'autres aspects, n'est-ce pas, de cette guerre qui est aussi une guerre d'accumulation primitive du capital. Évidemment, ça, c'est une autre manche de pair. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont en train de déplacer l'autochtone, n'est-ce pas, des moyens de production, c'est-à-dire toutes ces terres qui sont riches, pour les éloigner le plus longtemps possible, le plus loin possible, de manière à exploiter forcément. Donc la femme ici, elle subit tout ce contre-coup de cette guerre en tant que productrice de la vie. Et je crois, c'est pourquoi j'ai dit au début qu'elle a l'obligation de se mobiliser de manière à jouer un rôle très particulier, parce que ce rôle va faire cas d'école dans le cas de toutes les autres femmes qui vont subir la guerre à travers l'Afrique.
Alors, Joseph Kongolo, est-il vraiment possible que la femme congolaise joue un rôle quelconque dans la recherche et la consolidation de la paix quand elle n'a pas accès aux postes de responsabilité les plus élevés?
Bien, je crois que pour jouer un rôle particulier, il ne suffit pas d'avoir un poste particulier ou un poste élevé en dignité pour pouvoir agir. Il y a l'histoire qui nous donne des exemples de Jeanne d'Arc, peut-être c'est un mythe, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a lieu de sortir du lot, n'est-ce pas, de sortir du lot, de briser la cage dans laquelle on est enfermé et d'aller à la conquête des libertés, d'aller à la conquête de la paix. Tout cela est possible, c'est une capacité de mobilisation des femmes, une capacité d'organisation qui va leur conférer une responsabilité et un pouvoir qui va les amener, n'est-ce pas, à agir fortement sur le terrain. Tout cela est possible. Je crois que le malheur que nous avons, c'est d'abord la capacité de mobilisation des femmes, l'émiettement de toutes ces organisations, les différences idéologiques. Tout cela les sépare et les fragilise dans la conception et aussi l'exécution des décisions ou encore des actions qui sont amenées sur le terrain.
N'y a-t-il pas un problème de représentativité de la femme dans les institutions congolaises, par exemple?
Bon, évidemment, c'est un élément faible, n'est-ce pas? C'est un élément, c'est vrai, mais il est faible. Cela n'empêche pas la femme d'agir. La femme, c'est une tranche, après la jeunesse, c'est une tranche qui est quand même assez considérable dans la population congolaise. Et là, le problème, c'est des capacités particulières de se mobiliser comme un seul homme pour mener des actions qui influencent la décision politique, qui influencent les dirigeants politiques. C'est vrai que, bon, je ne vois pas en quoi, personnellement, c'est clairement comment le poste élevé, soit la présidence de la République, soit les autres postes, peuvent changer, n'est-ce pas, la capacité de la femme, n'est-ce pas, à pouvoir agir sur le terrain. Mais moi, je crois que si, au niveau de la base, la femme savent s'organiser et mener des actions qui soient efficaces sur le terrain, il y a possibilité de bousculer les lignes, particulièrement dans le cadre, n'est-ce pas, des dirigeants politiques.
Quel sens donner à la célébration de la Journée internationale de la femme? Quelques femmes répondent à cette question. On les écoute au micro de Samuel Kachak.
Je m'appelle Bangwene Aziza Clotilde. Je suis la coordinatrice d'un projet sous-régional de l'Institut Panos Paris. Comme vous le savez, la situation de la femme congolaise est catastrophique. Si vous allez au beach à Bukavu, vous allez voir comment une femme qui pèse 50 kilos soulève des sacs qui pèsent 100 kilos et plus. Et donc, elle doit tout faire pour faire vivre des familles avec des revenus insignifiants. Qu'elle peut faire malgré sa situation difficile et de pouvoir s'impliquer dans toutes les actions qui sont menées aujourd'hui dans la recherche de la paix. Elle doit aussi être active pour dénoncer toutes les formes de violation des droits de l'homme dans sa communauté. Elle ne doit pas être complice et faiseur de la guerre. Elle doit refuser d'être manipulée par les politiciens.
Marie-Ange Luciana, députée nationale. Le rôle de la femme, c'est également le rôle des facilitations, de contribuer d'une manière complémentaire visent à faciliter les voies de paix et non pas de mettre de l'huile sur le feu. La femme jusque-là dans notre pays, comment elle joue ce rôle? Elle joue ce rôle plus avec le plaidoyer. Elle joue ce rôle avec des pressions. Vous avez vu depuis des années et des années, les femmes du Congo se sont levées pour faire des marches. Pourquoi elle est jusque-là à ce rôle-là? C'est parce que dans notre pays, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a été promulguée depuis l'an 2000, cette résolution n'est pas encore totalement mise en œuvre.
Madame Faïda Mwangilwa, je suis consultante en JAR et responsable du bureau de consultation en JAR, participation citoyenne et développement. Lorsque la femme contribue pour qu'au moins l'on arrive à organiser les élections, par exemple, à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, au niveau provincial, au niveau municipal, et que cela soit de manière continue, ça doit aider absolument à baisser la tension sur le plan politique.
Georgette Diébé-Songo, la femme, c'est l'artisane de la paix. Et d'ailleurs, vous pouvez voir au niveau des familles, quand il y a des problèmes entre les enfants, on n'ira jamais chercher les papas. On fait toujours recours à la maman.
Je m'appelle Madame Fifi Osambia. Je suis au cadre du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle. La femme peut tout faire, mais dès lors elle n'est pas dans l'instance de décision, il lui sera difficile. Il faudrait bien qu'il y ait de bonnes formulations de politique pour qu'on intègre la femme dans toute la gestion de notre pays. C'est pas pourquoi je fais appel aux leaders. Parce que quoi que nous nous fassions, aujourd'hui vous parlez de la parité. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que la mise en œuvre n'est pas encore signée. Vous voyez que ça pose toujours un problème.
Madame Solange Nyanyezi, vous venez de suivre d'autres femmes qui ont réagi par rapport à la célébration de la journée internationale de la femme. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Joseph Kongolo qui pense que la représentativité dans les institutions, bon, c'est un élément faible dans le combat que la femme doit mener pour s'affirmer?
C'est son point de vue. Mais je crois que la représentativité de la femme est un élément majeur parce que même la loi nous l'autorise, donc dans son article 15, dans son article 14, donc c'est l'application même de la loi, donc ce n'est pas un fait du hasard. Et la loi, présentement, il y a une loi qui traîne encore au Sénat. Et cette loi donc donne une représentation de la femme à tous les niveaux à au moins 30%. Donc c'est la loi. Et si nous l'appliquons, peut-être nous aurons des fruits et nous allons sentir une forte implication de la femme parce qu'elle va se sentir prise en considération. Elle aura le pouvoir décisionnel. Elle peut aussi influencer certaines décisions. Nous voyons que souvent les femmes ont peur, mais dès qu'elle exerce un pouvoir, elle peut au moins prendre des décisions salutaires pour faire avancer certaines choses. Alors, des décisions salutaires pour appliquer.
Madame, permettez-moi de personnaliser un peu cette question. Vous êtes cofondateur du parti politique AFDC. À ce titre, quelles sont les opportunités que votre parti politique vous donne?
Ben, les opportunités, c'est d'abord, je suis membre fondateur, donc je suis parmi les fondateurs. Nous sommes donc copropriétaires de ce parti. Et ce parti me donne le pouvoir de participer à la table de négociation, à la table des décisions. Donc j'ai un avis à donner. Et surtout en matière aussi de représentativité des femmes. Et je crois qu'à ce point, en tout cas, notre leader ne lésine pas. Chaque fois qu'il faut prendre une décision, les femmes sont là et elles donnent leur point de vue. Ça ne doit pas s'arrêter là, mais elles doivent aussi exercer ces décisions-là ou exercer les postes de responsabilité. S'il y a des quotas qu'on donne au parti, à la représentativité de ce parti, on doit tenir compte. Nous tenons compte des femmes, c'est-à-dire un quota pour la femme et même aux élections. Nous nous préparons déjà aux élections provinciales, donc nous allons favoriser une forte implication sur une forte inscription sur les listes et aussi une forte implication sur l'organisation dans des bonnes conditions de ces élections, parce que de cela aboutira vraiment nous aurons véritablement nos 30% si nous battons campagne. Nous faisons tout ce que nous devons faire sur terrain pour se faire valoriser. Eh ben, nous allons mériter.
Il y a Madame Solange, il y a Komanda qui nous écrit de Kindo Maniema qui dit « La femme n'apportera rien dans la consolidation de la paix en RDC car elle est d'abord passive, moins instruite, puis victime du complexe d'infériorité. » Madame Solange.
Je suis pas tellement d'accord avec son point de vue. La femme apportera quelque chose de grand à la consolidation de la paix. Premièrement, la femme n'est pas rebelle. Elle ne se retrouve dans aucune rébellion. Et deuxièmement, vous avez vu à la table des négociations à Sand City, ce sont les femmes qui se sont levées pour essayer de négocier, de voir comment les deux parties pouvaient se parler. Donc la femme est catalyseur. Vous avez suivi tout récemment les marches de femmes contre la balkanisation. Nous voyons en l'occurrence les autres pays, les femmes qui font des tours du monde pour faire le lobbying sur la situation véritable que se vit dans leur pays. Et en l'occurrence la femme de la RDC, si nous emboîtons le pas d'ambassade en ambassade, de pays en pays pour faire le lobbying sur la situation réelle que nous subissons. Sur terrain, je crois qu'il y aura une solution et véritable. Actuellement, tout récemment, il y aura des négociations. Les femmes sont là. Elles doivent être là, impliquées. Vous voyez que nous n'avons pas des intérêts directs. Ce sont les hommes qui se battent et c'est souvent les femmes qui viennent éteindre le feu.
Madame Edo Nziavake, Joseph Kongolo a tout à l'heure fustigé la faible capacité de mobilisation des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Au niveau du Nord Kivu, nous sommes en train de mobiliser les femmes. Nous avons vraiment une forte mobilisation par rapport aux actions de plaidoyer. C'est parce qu'on n'a pas le temps. On pouvait vous énumérer toutes les actions que les femmes mènent dans la province du Nord Kivu suite à aux différentes guerres. Et nous avons même le courage d'aller voir et parler avec les rebelles, chose que les hommes ne peuvent pas faire. Plusieurs hommes ne peuvent pas aller vers les rebelles et parler avec les rebelles. Mais la souffrance nous pousse à aller vers ces rebelles, à aller même vers les ambassades au niveau du Rwanda, au niveau même de Nairobi et à Kinshasa, pour parler avec les personnes accréditées dans notre pays pour essayer de voir s'ils peuvent apporter une solution par rapport à la guerre, parce que les femmes au Nord Kivu sont fatiguées avec la guerre. Les femmes sont fatiguées et cette fatigue pousse ces femmes-là à aller de l'avant. Pour la mobilisation, en tout cas au Nord Kivu, les femmes sont mobilisées. Parce que quand elles voient que les autres femmes à Kichanga aujourd'hui, les femmes passent la nuit à la belle étoile, sous la pluie, les femmes de Rutshuru sont dans des camps de déplacés, elles n'ont pas d'assistance. Ce n'est pas facile de supporter quand vous voyez votre sœur en train de souffrir. Alors cette souffrance pousse les autres femmes aussi de se mobiliser pour cette même cause, pour essayer de voir comment on peut ramener la paix dans la province du Nord Kivu et en aide des Congo.
Il y a le chef de travaux Jean-Bernard Mibeko qui nous écrit de Mbandaka à l'Équateur qui dit « La femme doit cesser de jouer le second rôle en adoptant un comportement digne et non complaisant à l'égard de tout ce qui se passe dans la société. Elle doit prendre le courage pour dénoncer tout ce qui bloque le développement de la société congolaise et refuser tout ce qui la réduit au second rôle, quel que soit le prix à payer. » Donc, à vous comprendre, Madame Edo Nziavake, par le fait que la femme ne soit membre d'aucune rébellion, comme a dit Madame Solange Nyenyezi, cela fait d'elle un interlocuteur privilégié pour rechercher la consolidation de la paix.
Oui, parce que la femme prend son courage pour essayer de parler. La femme dénonce, mais elle n'a pas la vraie réponse par rapport aux dénonciations que les femmes font par rapport à cette situation. Parce que le contexte, par exemple, du Congo, en particulier le Nord Kivu, change d'une minute à une autre. Et les femmes s'organisent pour faire des analyses du contexte, pour avoir des éléments comme argument à présenter par rapport à la situation. Donc, la femme vraiment doit être la vraie partenaire par rapport même aux négociations de paix. Malheureusement, elles n'ont pas de personnes qui peuvent l'écouter, qui peuvent écouter les femmes par rapport aux revendications que les femmes proposent à différents niveaux.
Premier anniversaire hier mercredi de trois femmes nominées femmes de courage par l'Association des Nations Unies, ANU-RDC. Il s'agit des femmes qui avaient fait preuve de bravoure dans les actions de paix et de la promotion de la femme. L'ONG ANU-RDC avait enquêté sur leurs actions au sein des communautés avant de les nommer courageuses. Hier, ces trois femmes ont sensibilisé une centaine d'acteurs locaux d'Ouvira et de Fizi à Ouvira sur le rôle et la responsabilité de l'homme pour le bien-être et l'émergence de la femme, de la fille et de la paix durable. L'activité était inscrite dans le cadre du mois de la femme. On écoute le témoignage de l'une d'entre elles, Madame Émérite Tabisha Mongelois, au micro de Fiston Goma.
Dans le territoire de Fizi, nous développons un projet sur la participation des femmes aux instances de prise de décisions coutumières. Et là, nous travaillons sur la gouvernance locale. Ce projet-là a fait beaucoup de progrès. C'est depuis 2010 qu'en territoire de Fizi, dans le pouvoir coutumier, qu'il y a maintenant une femme qui participe dans le conseil du pouvoir coutumier. Et depuis 2010 jusqu'à maintenant, nous avons maintenant 91 femmes qui sont au sein du conseil coutumier. Il y en a qui sont juges dans les tribunaux coutumiers. Il y en a qui sont maintenant les chefs de village, qu'on appelle les capitats. Il y en a qui sont dans le conseil du chef du Mouami, donc du chef coutumier. Il y en a qui sont conseillères à tous les niveaux de l'organigramme du pouvoir coutumier. Et donc, ce sont des actions comme ça dans la communauté qui font que la communauté a un regard et un espoir envers une femme. Notre message est que les droits des femmes soient réalisés et que les communautés jouissent des fruits de l'avancement des droits des femmes.
Voilà, Joseph Kongolo, là c'est déjà au niveau traditionnel, les femmes commencent à intégrer le niveau de prise de décision, mais est-ce que la femme congolaise vraiment peut avoir une influence quelconque sur la recherche et la consolidation de la paix dans le contexte actuel?
Bien, avant de revenir, je voudrais ici aborder deux petites questions rapidement. C'est que la représentation 30% de la femme dans les institutions, et d'autres défis qui se présentent à la femme aujourd'hui dans notre société doivent être le fruit d'un combat. Même si la loi le consacre, n'est-ce pas, la femme doit continuer à se mobiliser à la base de manière à ce que qu'elles entrent, n'est-ce pas, dans leur droit. Deuxièmement, il faut toujours souhaiter la mobilisation par le bas. C'est la mobilisation la plus sûre qui est porteuse d'actions qui portent, n'est-ce pas, plutôt que la mobilisation par le haut. Voyez-vous, parce que par le haut, vous êtes en train de minoriser, n'est-ce pas, de diminuer le nombre, tandis que par le bas, vous avez la masse, n'est-ce pas, et vous atteignez toutes les autres couches. Je voudrais ici que les femmes continuent à faire la mobilisation par le bas. C'est une mobilisation qui est plus sûre et qui porte plus par rapport à une mobilisation par le haut. Je crois que c'est un élément essentiel. La femme, en tant que conseillère, c'est elle qui est la femme de celui qui fait la guerre. En même temps, c'est la maman de celui qui porte les armes sur le champ de la guerre. Je crois qu'elle a un rôle aussi social majeur, n'est-ce pas, dans la recherche de la solution à la guerre. Pourquoi? Parce qu'elle est la mère de celui qui porte les armes sur le champ, elle est en même temps la femme, n'est-ce pas, de celui qui fait faire la guerre. Voyez-vous, elle a un rôle majeur qui doit agir, qui doit faire, qui doit assumer en tant que femme. Et je voudrais que l'ensemble des mobilisations de la femme, qu'on puisse porter sur cette responsabilité particulière de la femme en tant que conseillère et mère, n'est-ce pas, pour pouvoir arrondir les ongles dans leur action à mener sur le terrain. Eh ben, quelle est la portée, n'est-ce pas, de la mobilisation de la femme pour mettre fin à la guerre? C'est ça la question. Je ne voudrais pas, dans ma vocation chrétienne, il y a des choses qui peuvent être politiquement correctes. Mais en tant que chrétien, je crois que j'ai des limites pour pouvoir les proposer. Mais au moins, ce que je sais, c'est que la femme, du fait d'être le partenaire naturel de l'homme, a une autre capacité, une force particulière qui est là, à pouvoir influencer l'homme d'abord, n'est-ce pas, pour mettre fin à la guerre, en faisant pression sur l'homme. En tant qu'individu, en tant que singleton, mais aussi en tant qu'organisation, en tant que groupe des femmes, en tant que toutes ces ligues des femmes, toutes ces organisations des femmes, il y a une possibilité de se mobiliser avec un message fort et des actions précises de manière à influencer les décideurs, n'est-ce pas, à mettre rapidement fin à la guerre. Ça veut dire que dans les décideurs, il y a aussi des femmes. Il y a aussi des femmes. Et toutes ces femmes, en tant que catégorie particulière, elles ont cette capacité de se mobiliser. Et en se mobilisant, plus vous devenez grand, vous avez ce qu'on appelle l'impérium, donc le pouvoir. Et le pouvoir a la possibilité, n'est-ce pas, d'influencer notre pouvoir et l'orienter vers des désidérata, n'est-ce pas, de la population.
Il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission, Joseph Kongolo. Vous prenez la mobilisation des femmes par le bas, mais comment cette mobilisation peut se faire lorsque la femme n'est pas suffisamment instruite?
Oui, c'est vrai que le fait d'élargir l'instruction au niveau de la femme fait partie de la mobilisation. Ça fait partie d'une stratégie de mobilisation aussi. Mais cela n'empêche. Il faut sensibiliser cette femme, lui faire découvrir et défendre ses droits et devoirs en tant que femme dans une société, et le mettre, n'est-ce pas, sur les rails pour conquérir, n'est-ce pas, ses droits dans la société. Là, instruite ou pas, c'est la capacité de sensibilisation, n'est-ce pas, qui importe pour les acteurs ou les actrices, n'est-ce pas, des organisations des femmes. Et ça, c'est une stratégie qu'il faut le faire, parce que vous n'allez pas attendre instruire la femme pour pouvoir la mobiliser. Je crois que ce sont des activités qui peuvent aller de pair, mobiliser, sensibiliser au même moment et former.
Madame Solange Nyenyezi, il y a Zed Ilunga qui dit « La femme ne doit pas crier, je suis femme, considérez-moi, plutôt elle doit poser des actes permanents qui la placent là où elle souhaite être. S'il faut battre campagne, battez campagne. S'il faut s'ingérer dans la diplomatie, faites-le et non crier seulement parité dans les institutions. »
Tout à fait d'accord. Donc, c'est la méritocratie que nous devons prôner. Et sur ce point de vue, je crois que les nombres des femmes que nous avons vues sur terrain en 2011 l'a prouvé, qu'elle est descendue aussi sur terrain pour battre campagne, donc pour se faire élire, pour démontrer de quoi elle était capable, comment elle pouvait vendre son projet de société, se vendre. Nous voyons maintenant une accessibilité des femmes dans les médias, pour constituer aussi un électorat sûr. Nous voyons aussi une implication des femmes dans les partis. Ce n'est pas encore suffisant parce que souvent elles sont là pour acclamer, mais il faut qu'elles s'impliquent véritablement dans le pouvoir décisionnel. Mais ce que je peux dire, et j'aimerais vraiment redire,
en guise de conclusion déjà,
c'est-à-dire la restauration de l'équilibre du pouvoir entre les hommes et les femmes ferait en sorte que les femmes aient le droit d'avoir, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, le droit de savoir, l'accès à l'éducation et à la formation. Merci. Et ainsi le pouvoir décisionnel, c'est-à-dire la représentativité valable et équilibrée dans les instances décisionnelles.
Merci Madame Solange Nyenyezi. Madame Edo Nziavake, en guise de conclusion, quel message pouvez-vous adresser à l'occasion de cette journée à toutes ces femmes qui vous suivent?
Et à toutes les femmes qui nous suivent, et je voudrais les encourager, surtout les femmes qui se mobilisent pour les actions de la des plaidoyers pour la recherche de la paix, afin qu'elles puissent aussi mobiliser d'autres femmes qui n'ont pas encore compris. Parce que les femmes doivent comprendre qu'elles ont un rôle à jouer dans le processus de paix. Elles ont déjà compris, mais il faut que toutes les femmes comprennent. Et j'encourage aussi toutes les femmes qui encadrent nos déplacés dans les camps de déplacés et dans les familles d'accueil pour qu'elles continuent aussi à montrer que nous sommes au même pied d'égalité que nos sœurs qui souffrent suite à cette guerre et dans la province du Nord.
Merci Madame Edo Nziavake, point focal de la marche mondiale des femmes. Joseph Kongolo, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous en guise de conclusion?
Je voudrais que toutes les revendications des femmes, faibles soient-elles, qu'elles trouvent quand même une oreille attentive, les écouter et comprendre ce qu'elles veulent et arriver, n'est-ce pas, à satisfaire leurs revendications.
Et vous pensez que c'est possible dans le contexte congolais?
C'est possible si on exerce l'écoute démocratique de la part des dirigeants politiques. Apparemment, ce sont des intérêts égoïstes, alors que la masse, le socle même de la société, est en détresse.
Merci mesdames et messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site radiocapi.net ou la réécouter à 4h15 en rediffusion, 4h15, heure de Kinshasa, je précise. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi. Au revoir.